Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes évidemment sur Radio Grenouille. Et ce midi, pendant une petite demi-heure, de quoi va-t-on parler ? De danse, de théâtre, de voyage, de croisement, de marge ? Je ne sais pas. L'association Comme un Acte organise pour la 7e édition maintenant, le festival Parallèle. Ça se tiendra du 24 au 29 janvier 2017 dans pas mal de lieux de Marseille, une dizaine précisément, avec une quinzaine de propositions. Lou Colombani, directrice artistique de l'association et du festival, est avec nous pour en parler. Bonjour Lou.
Bonjour Simon.
Tout va bien ?
Très bien, merci.
On va s'écouter avant de dresser un panorama général des dynamiques de cette 7e édition, avant de passer un petit coup de fil à Anis Legac, une des artistes qui va être invitée pour ses performances. On va s'écouter un extrait de la bande-annonce de cette 7e édition du Festival Parallèle, je le rappelle, 24-29 janvier 2017. Vous êtes sur Radio Grenouille.
Αν το κολύμπι με ευχαριστεί να μην βουτήξω ξανά σε γαλάζια καθαρά νερά. Αν κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια, να γίνει πέτρινο το μαξιλάρι μου και το σεντόνι μου σιδερένιο. Αν μιλάω με ενδιαφέρον, να λέω από εδώ και στο εξής μόνο ασήμαντα πράγματα, με ψεύδισμα στις συζητήσεις που θα κάνω. Θα είμαι ειλικρινής.
Now my question is, have you ever felt free?
Que faites-vous ici? Que faites-vous, mes frères?
Θα είμαι ειλικρινής.
Je n'avais que des récits à mettre dans un récit. Que serait-ce quand il faut, dans du récit, mettre de la réalité? Et quand il faut, dans la réalité, mettre de la réalité? Quelque chose m'étonne dans notre rencontre. Quand je regarde vos vies, je me dis que vous auriez très bien pu faire quelque chose de tout à fait différent, que les raisons qui vous ont rassemblés ici sont multiples, certainement contradictoires, quasiment hasardeuses. C'est la première fois que je viens ici. Cela peut sembler étrange que nous nous y retrouvions. Et pourtant, c'est toute la particularité de la rencontre. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontrant pas, nos points d'intersection ne peuvent se situer que dans l'extraordinaire.
Un extrait de la bande-annonce de cette 7e édition du Festival Parallèle, organisé par l'association Comme un Acte. Lou Colombani est avec nous dans le studio de Radio Grenouille pour évoquer cette 7e édition, 24-29 janvier. Et beaucoup de dynamique, Lou, et beaucoup de voix, beaucoup de sons, beaucoup de réalité, comme on a pu l'entendre un peu dans cet extrait.
Oui, tout à fait, multiple et de diverses provenances géographiques, oui. Important, dimension importante de ce festival.
Eh oui, c'est ça, on peut en parler. Hein. D'ailleurs, ce festival, cette quinzaine de propositions, là, entre du théâtre, de la danse, des expositions, des installations, différents rendez-vous marqués dans pas mal d'endroits de la ville de Marseille. Le voyage, il est important. Le nomadisme un peu aussi.
Ouais, le voyage, le déplacement des points de vue, et puis la capacité à accueillir aussi. La capacité à accueillir différentes manières de se représenter notre monde, de se sentir à l'intérieur de celui-ci, différentes pratiques, différentes cultures, bien sûr, et Marseille, c'est une ville formidable pour ça.
C'est pour ça que vous avez intitulé l'édito qui présente un peu cette 7e édition de la vibration des marges.
Oui, alors c'est une formule que j'ai reprise à Daniel Blanga-Goubaï qui va animer une discussion au MUCEM le samedi après-midi. Mais c'est vrai que quand je l'ai invité à animer ce temps de réflexion, j'ai essayé de nommer ce qui pour moi était le commun dans cette programmation. Et c'est vrai que ce que j'ai vu apparaître au fur et à mesure, parce que je n'aime pas vraiment poser une thématique en amont de la constitution question de la programmation, mais j'aime bien la regarder après et voir ce qu'elle raconte. Et c'est vrai qu'il y a, je pense que c'est évidemment très lié au contexte actuel, mais ce besoin de savourer la vie et de la mettre un petit peu à l'honneur dans les endroits d'où elle surgit et où on ne s'y attend pas forcément. Enfin, c'est-à-dire les endroits qui ne sont pas forcément toujours mis à l'honneur, mis en visibilité par les médias, par les grandes structures,
etc.
Ouais, enfin, sans parler des autres structures, opérateurs culturels, mais je veux dire, en tout cas, c'est pas les endroits de vie qui sont les plus mis en visibilité de manière générale, et c'est pour ça que j'aime bien parler de marge. On verra avec Volmir Cordero, par exemple, des corps de rue, avec Tiphaine Raffier, une histoire de monde paysan contemporain, enfin voilà, avec Marion Siffert, il s'agit d'aller à la rencontre du spectateur, qui est d'habitude celui qui est plutôt dans l'obscurité et qui observe, voilà. Mmh. Donc c'est aussi aller permettre à ces endroits de se manifester, et c'est des endroits souvent de grande humanité.
Oui, c'est ça. Ces endroits-là, quand j'évoquais ça, c'était pas forcément quand je disais des grandes structures. On peut penser, je rejoins un média parce que les structures de Marseille représentent bien le festival du théâtre, du théâtre des Gymnases Bernardines, la Cité, Montevideo, on en reparlera, la Criée, Arcade, les Bains Douches dans le 6e, Mucem, la librairie Maupetit, le théâtre de l'œuvre. Enfin voilà, vous vous baladez jusqu'à même ici à la friche Belle de Mai avec Sandra Hichet, Aline Rosenstein, Ali MMM. Là-dessus, le festival est nomade et c'est important pour vous, c'est ça?
Alors, c'est-à-dire que moi, j'aime aller à la rencontre de l'autre et j'aime aller à la rencontre du projet de l'autre. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, il y a des lieux plus ou moins institutionnels, de taille et de typologie très différentes. Et ça, c'est très important parce que comme la programmation est multiple, diverse et contrastée, on a besoin aussi de différents cadres, du plus institutionnel, je dirais, du plus grand théâtre comme le théâtre à l'italienne, théâtre du Gymnase, au petit théâtre ou à la galerie. Enfin voilà, ça permet à différents formats de pouvoir figurer à la programmation. Et puis c'est vrai qu'on a absolument besoin de nos partenaires pour travailler. Moi, j'aime aller à la rencontre de l'autre. Après, dans le cadre de partenariats bien positionnés, ce qui est le cas, c'est formidable parce qu'on a des interlocuteurs qui ont différents regards aussi, et c'est de la complémentarité. C'est toujours intéressant, oui.
Loin de nous de vouloir, dans cette demi-heure d'entretien avec Lou Colombani pour cette 7e édition du Festival Parallèle, loin de nous de dresser un panorama non exhaustif de cette programmation qui, je le rappelle, a une quinzaine de propositions tout aussi précises les unes que les autres. Énormément d'entretiens vont se retrouver et diffusés durant la durée du festival, entre le 24 et le 29 janvier prochain, sur l'antenne de Radio Grenouille. Et évidemment, le maximum d'informations seront à retrouver sur le site de radiogrenouille.com. Néanmoins, il y a quelques explorations que nous pouvons faire, Lou Colombani. On parlait de nomadisme, on peut parler également de déplacement. Et je pense que vous voyez où je veux en venir avec le spectacle qui sera proposé par le chorégraphe syrien Mitrail
Al-Zahir.
C'est ça. Déplacement est une création du chorégraphe syrien Mitrail Al-Razeï, c'est ça. Que peut-on en dire, Lou Colombani? Pourquoi avoir proposé, par exemple, cette pièce qui se veut comme un hommage aux danses traditionnelles, mais en même temps croisée avec une actualité assez particulière, un contexte particulier qui ne se veut pas, c'est assez précis, qui ne se veut pas comme un document sur la guerre ou un document artistique, comme une représentation, une métaphore sur la guerre? Qu'est-ce qui vous a parlé quand vous avez vu le travail de ce chorégraphe qui est aujourd'hui installé en France d'ailleurs?
C'est forcément une pièce qui évoque beaucoup de choses pour nous quand on voit ces corps en déplacement. Donc Mitral au début de cette pièce est tout seul et puis ensuite il y a deux danseurs qui le rejoignent, ça devient un trio et donc il fait des glissements perpétuels entre la danse traditionnelle syrienne, pardon, le dabke, et des corps en déplacement, en lutte et en fuite, et forcément ça fabrique des, enfin pas forcément, c'est qu'ils le font avec grand talent, mais des images très très fortes et qui nous touchent. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi que les spectacles et que les projets artistiques nous parlent du monde dans lequel on vit, et puis c'est une manière de l'approcher. Il y a plein de manières de le faire, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de force dans ce travail. C'est pas quelqu'un qui en fait en effet une pièce document sur la guerre en Syrie, mais qui par ses glissements perpétuels aussi nous questionne sur une vitalité artistique, culturelle, sociale, et puis comment est-ce qu'elle peut être déracinée, comment est-ce qu'elle peut être mise à mal, et voilà, et c'est ces glissements continus là, ces sortes de fondus enchaînés qui sont très très forts. Ouais.
Ça renvoie également à une nouvelle phrase de votre édito, Lou Colombani, il y aura de l'accident et de l'instable, on le voit d'ailleurs dans cette danse, la façon dont les corps ne sont pas parfaits. Et oui, c'est pas impossible de se produire quand les choses ne sont pas encore complètement calibrées, quand justement l'instable est ici et que on ne sait pas comment le prochain mouvement pourra du moins se faire. On va respirer un peu en musique avec le détachement international de Muerto Coco, qui sont accompagnés dans tous les cas par Comenact. On les avait reçus l'année dernière, qu'on avait évoqué la sixième édition. Malheureusement, ils ne pouvaient pas nous rejoindre aujourd'hui en studio. Est-ce qu'on peut rappeler un peu la dynamique de Raphaël et de Maxime du détachement international? Ils ont une carte blanche cette fois-ci.
Ouais, ils ont une carte blanche. L'année dernière, on avait montré une partie de leurs lectures électroniques, puisqu'ils font des entrées par thématique. Ils compilent des textes de poètes contemporains et on va dire qu'ils les classifient par thématique, la politique, la sexuelle, la familiale, la médicale, etc. Et donc là, comme c'est très petite jauge, c'est en caravane, il y a une vingtaine de places dans la caravane, et qu'ils ont été, on va dire, victimes de leur succès, on avait envie, on se dit tant pis s'il y a redite, de toute façon il n'y a pas redite parce qu'il y a une nouvelle rencontre, et puis que ça permet d'explorer d'autres thématiques de leur lecture. Mais donc on les a invités à nouveau, et puis on avait envie de montrer, c'est des gens qui sont très prolixes, qui travaillent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, mais qu'on voit moins souvent à Marseille directement, et c'est des gens qui travaillent toujours sur la poésie contemporaine et sur comment la donner à entendre au mieux et en étant le moins coupé possible d'une audience la plus diverse possible. Et du coup, ils feront trois formes là, dans le cadre du festival. Lectures électroniques, donc on va compléter la collection. Ensuite, un projet qui s'appelle Ici, la Canebière. Donc c'est une balade atelier. Les gens vont se proposer pour faire partie d'un groupe qui va déambuler dans le quartier de la Canebière et puis qui va, en marchant, formuler pour chacun son « ici ». Voilà, commencer toutes ces phrases par « ici », et puis qu'est-ce que c'est mon « ici » voilà. Et donc ces paroles seront enregistrées, et puis elles vont être montées. Il y aura un montage sonore qui va être fait, qui sera diffusé le dimanche après-midi dans un amphi de la fac de droit sur la Canebière. Voilà, donc c'est une sorte de carte postale auditive. Audio, et puis ensuite, pardon, Notre cerveau doit apparaître, qu'ils feront au Théâtre de l'Œuvre le dimanche après-midi aussi, 20h, je crois que c'est à 20h.
C'est ça, à 20h.
Voilà, et ça c'est un atelier qu'ils ont mené avec des lycéens, atelier d'écriture, et puis ils ont mélangé ces phrases avec des phrases de poètes contemporains, et ces phrases sont lues et mélangées, et puis on se rend compte qu'on a un peu du mal à, et que de toute façon c'est pas du tout l'objet, mais de discerner qui a pu dire quoi.
Légère fenêtre sur l'univers du détachement international de Muerto Coco. Ils nous ont envoyé quelques extraits de leurs sons. Et nous, les sons, on aime bien ça. Jeanne et Jean.
Tandis qu'aux deux magots, Jean faisait part à Pierre et Marthe des doutes affreux qui le hantaient, Paul et Jacques, au café de Flore, tentaient de convaincre Jeanne de profiter des derniers beaux jours et de sauter dans le premier train qui l'emmènerait loin de Paris. Jean avait finalement décidé de rentrer à la maison, passant par ce jardin des plantes qui avait fait remonter en lui tant de tristes souvenirs. Au même moment, Jeanne, qui avait peur de commettre une erreur fatale, prenait l'avis de Max à Pigalle, celui de Luc à Étoile, de Gilles et de Claude à Bastille et celui de Claire encore à Opéra. À 9h, sa décision était prise. Alors elle s'était empressée de rejoindre Jean pour l'en informer sans tarder. Je t'aime, tu le sais, Jeanne.
Laisse-moi au m'en aller, Jean.
Mais tu le sais, je t'aime tant, Jeanne.
Laisse-moi au m'en aller, Jean.
Tous, ils le savent, je t'aime, Jeanne.
Oh, je sais, Jean, je veux juste m'en aller, Jean.
Non, Jeanne, je t'aime tant.
Non, Jean, si tu m'aimais, tu me laisserais aller.
Tu n'es pas sérieuse, Jeanne.
Si, Jean, je veux vraiment m'en aller.
Si tu t'en vas loin de moi, je te tuerai, Jeanne, tu le sais, ça.
Oh non, tu ne me tueras pas, puisque tu m'aimes, Jean.
Je t'aime, Jeanne, mais je ne veux pas que tu t'en ailles loin de moi.
Si je reste avec toi, je serai si mal.
Quel est le mieux pour toi, être mal ou être morte?
Oh, Jean, vraiment, je ne sais pas.
Tu ne m'aimes pas, c'est donc vrai.
C'est vrai, Jean.
Alors j'ai une chose à faire.
Laquelle, Jean?
Te tuer, Jeanne.
Ah, me tuer? Mais tu n'es pas un tueur, Jean.
Je peux devenir un tueur si je veux.
Oui?
Oui, j'ai un canif dans ma poche.
Oui?
Oui.
Mais tu n'as jamais tué personne avant ça?
Jamais.
Tu ne sais pas comment tuer quelqu'un avec un canif?
Non, mais je peux tenter.
Je ne te laisserai pas tenter, Jean.
Si, tu le feras.
Pourquoi, Jean?
Parce que je le veux.
C'est une mauvaise raison!
Lève ta tête, Jeanne, que je te tue.
Certainement pas, Jean.
Imagine que tu es juste un poulet.
Je crois que tu ne sais pas ce que tu dis, Jean.
Je dis que tu es comme un poulet.
Je ne suis pas un poulet, Jean, je suis une fille.
Non, tu parles comme un poulet, bouge comme un poulet, dors comme un poulet, t'es prêt comme un poulet. Ton cerveau est un cerveau de poulet et les poulets doivent être tués et mangés dans des assiettes vertes.
Pourquoi justement vertes, Jean?
Tu cherches à gagner du temps, Jeanne, mais ça ne prend pas.
Je cherche juste à comprendre, Jean.
C'est trop tard, tu vas mourir, Jeanne.
Non.
C'est juste une blague, Jeanne. Je blaguais, Jeanne.
Oh, Jean, je ne t'ai pas cru, tu sais.
Moi non plus, je ne t'ai pas cru, tu sais, Jeanne.
Mais moi, Jean, je veux vraiment m'en aller, Jean.
Oh, j'ai eu peur que...
Ça finit pas vraiment très, très bien.
Ce n'était pas un beau film, en fin
c'est
de
vrai.
Compte.
En
c'est anglais,
toujours,
c'est mieux,
ce qu'on
je
dit
pense.
En anglais.
Le détachement international de Muerto Coco, avec cette poésie sonore, Jeanne et Jean. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne l'aviez pas entendu celui-là, je pense.
Celui-ci, non. Comme je vous le disais, ils sont prolixes.
C'est ça. On discute avec Lou Colombani de la 7e édition du Festival Parallèle, qui se tiendra du mardi 24 au dimanche 29 janvier. Programmation complète, elle sera bien évidemment donnée sur radiogrenouille.com et je n'ai pas votre site internet sous les yeux. Lou, si vous connaissez l'adresse de tête.
www.festivalparallèle.com.
Comme ça se prononce, c'est merveilleux. 7e édition, une dizaine de lunes, quinzaine de propositions, dont une proposition qui s'intitule Grand Mal, qui est une performance et qui est présentée par Élie Ortiz et Anise Le Gac, cette dernière que nous avons par téléphone. Bonjour Anise.
Bonjour.
Bonjour. Ça vous fait rire déjà?
Non, oui, enfin, non, bonjour, super, oui, je suis là.
Bonjour, merci de vous rendre disponible pour discuter un peu du projet Grand Mal que vous allez présenter au Théâtre des Bernardines. Ça se passera le 26 janvier 2017 à partir de 19h. Grand Mal, Anne-Lise, je vous avoue que j'ai grand mal à vous décrire. Je ne sais pas si on vous l'avait faite, celle-là, je viens de la trouver. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à préparer un lancement pour ce petit entretien que nous allons avoir tous les deux, Anise Le Gac. Okay. Tout est parti d'une collection de vidéos de danse amateur que vous avez trouvées sur Internet et que vous vous êtes réappropriées et que vous voulez représenter par des lectures, du son, etc. Mais en même temps, la forme qui sera présentée ce 26 janvier au Théâtre des Bernardines, elle ressemblera pas vraiment à tout ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est bien ça?
Alors, en fait, oui, c'est-à-dire que ça, quand je dis ça part d'une collection, c'est que c'est vraiment de la recherche à la base. Quand j'ai été arrangée dans un master de danse, et je me suis dit, ben, il y a un truc à faire juste pour moi aussi, pour mes documents perso, d'aller chercher des ressources de mouvement dans ce qui se passe sur YouTube et dans les gens qui se filment en train de danser. où il n'y a pas vraiment de style, ou en tout cas, il n'y a pas tant que ça de notion d'auteur et de création.
Non, bien sûr, mais c'est excellent. Coup, la densité est incroyable. Ce que vous avez trouvé aussi, il y a des... et encore, j'imagine que j'ai vu qu'une petite partie de l'Asbury.
Voilà. Mais voilà, et ensuite l'idée c'est que ça c'était de la doc, et puis j'ai partagé la recherche avec Ellie, qui est un ami à moi depuis très longtemps, et qui lui est couturier par contre.
Okay.
Et par contre, j'ai fini ce master, et ensuite on a eu l'occasion de commencer une résidence, juste après à Paris, très courte, un truc pour tester quelque chose, et donc j'ai invité Ellie à essayer de refaire ses danses, chose qu'on n'avait jamais fait avant, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en sortir. Et en fait, ça a donné le tout début de Grand Mal, mais aussi une espèce de prise de distance par rapport au fait de juste refaire les danses et d'ouvrir les collections à de la documentation qu'on a tous les deux maintenant accumulée. Donc c'est effectivement des lectures, des textes et tout ça. Et en fait, tout le truc quand même qui circule dans Grand Mal, c'est finalement aussi la question de la solitude, de l'amour et de où est-ce qu'on trouve l'énergie, dans le sens de où est-ce qu'on trouve la ressource pour pouvoir se mettre en action, en geste et surtout en conversation. C'est-à-dire que où est-ce qu'on a la nourriture pour pouvoir converser avec l'autre. Et moi, au final, en théorisant un petit peu Grand Mal, c'est passer d'une collection de documentation à une conversation où, en fait, ces documents sont en jeu dans la conversation, sont activés. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est à certains moments d'utiliser ces vidéos de danse comme des supports où on peut copier, où on peut s'inspirer, où on peut retrouver l'état. Parce qu'on a effectivement tout un panel hyper large. En fait, on a des gens qui sont complètement défoncés en festival et qui dansent. D'autres qui sont en mode voguing et du coup avec des mouvements, disons, de danse un peu vernaculaire comme ça, mais qui se sont inscrits à travers un vocabulaire. Et nous, on joue aussi de ça, mais on a aussi pas mal parlé de cette question de l'autoreprésentation et puis du face-à-face qui se passe entre celui qui regarde et qui est un peu imprégné. Enfin voilà, il y a une espèce d'empathie comme ça où il y a deux personnes qui se regardent. Mais enfin, une personne qui regarde une autre qui est dans l'écran, et qu'avec Ellie, on avait aussi on a beaucoup ce type de relation-là, puisqu'on n'habite pas dans la même ville. Et qu'on a aussi on a décidé que Grand Mal était aussi une conversation parce qu'on ne voulait pas que ça s'arrête et qu'on a confiance dans la conversation pour être quelque chose d'inarrêtable. Les deux ont le désir de continuer à converser. Et c'est pour ça qu'on, depuis un moment maintenant aussi, on revendique une espèce d'actualisation perpétuelle de Grand Mal. À chaque fois qu'on le montre, il y a des nouveaux ingrédients qui apparaissent, mais de manière assez, assez fine, parce qu'on ne remet pas tout en branle à chaque fois. Mais par contre, on réactualise. Parce que le début de Grand Mal, c'est avec pas mal de paroles. Et donc cette prise de parole-là, elle est aussi actualisable. Et puis même aussi certains passages dansés. Voilà. On l'a présenté à Lausanne au mois de décembre. Ce qui va se passer à Marseille, c'est assez similaire.
Ouais.
Mais effectivement, on joue de ces registres-là. C'est-à-dire, on a des outils, on a des contenus, et on les met... enfin, vraiment, on les active pour être tous les deux en train de travailler voilà, autour de ces questions-là, en fait. Genre... être seul, on parle de l'amour, d'une certaine forme de violence, et à travers ça, on utilise des formats. Donc il y a le PowerPoint, il y a le chat, il y a la danse, il y a le téléphone portable qui sert d'interface pour faire passer du son. Enfin voilà, et il y a une fin aussi un peu performative, spectaculaire. Enfin, on essaye de construire sur 50 minutes. Un agencement de formats qui correspondent aussi à nos manières de communiquer, qui switchent d'un registre à un autre assez brutalement. Mais comme dans la vie, en fait. Hein, c'est-à-dire que d'un coup, on discute en vrai avec quelqu'un au bar, et puis bim, il y a quelqu'un qui envoie un texto, on lui répond. Enfin, c'est une espèce de catapultage comme ça, des couches, quoi, de communication, de discussion. Il y a pas mal de ça aussi dans Grand Mal. On n'est que deux, mais en fait, ça joue aussi beaucoup de ça.
C'est ça que vous explorez, du coup, ouais, si j'ai bien compris.
On explore, on explore ça et on se sert beaucoup de la nourriture. On appelle ça, on disait, genre, la nourriture est partout et Grand Mal se sert. Et aussi dans cette idée que, en fait, le web est entre nous, l'Internet, comme on dit, et c'est un puits. C'est un puits sans fond où on attrape des choses et puis on les rebalance, on les redigère, on les laisse de côté, on les remanipule. Et on
comme de la nourriture
ça, quoi. Ben, un peu, ouais.
C'est pour ça les frites, les pistaches et les cafés en décomposition que j'ai pu voir.
Effectivement, ben, quand on arrive quelque part, si on a quelques jours en amont, en général, on les a. On ne jette jamais aucune des poubelles jusqu'à avoir fait Grand Mal devant le public. Donc, notre table de Grand Mal, c'est le support de tout ce qu'on consomme. Mmh. Donc, il peut y avoir un nouveau bouquin qui apparaît, mais il y a aussi souvent des canettes de bière, des coquilles de pistache. Il y a un peu notre nourriture propre et puis la nourriture plus figurée, quoi. Mmh. Et donc, tout est sur la table et ensuite, tout est sur le sol aussi. Enfin, une espèce de truc où on disait... une partie d'un principe qu'il n'y a pas tellement de différence de valeur entre les trésors et les ordures et qu'en fait, c'est qu'une question de comment se saisir d'une chose et comment aussi jouer de la valeur que le monde l'attribue. Genre, d'un coup, c'est une poubelle et en fait, tu pioches un truc sur l'Internet, c'est dans un sale blog dégueulasse et puis toi, tu décides que c'est un trésor et tu vas le mettre en valeur de dingue, comme si c'était ton bijou. Mmh. Mais en même temps, il a une valeur qui est complètement éphémère et surtout qui peut basculer d'un moment à un autre dans la poubelle ou sur le trône, quoi.
Vous n'avez pas nommé ça d'ailleurs, Anne-Lise Le Gac, dans une des vidéos que j'ai pu voir, ce rapport entre l'ordure, the trash et le trésor, si?
Ouais, c'était en fait on avait genre en français on dit ordure, genre or plus loin dur, et en anglais j'avais trouvé trasher, c'est genre trash et c'est la fusion de trash et de
trésor.
Trésor, voilà. Et un peu comme glocal, parce que par exemple les danses glocales. Mais là, pour le coup, il y a un concept qui a été archi travaillé par d'autres, autant des écolos que des capitalistes.
D'ailleurs.
Voilà, donc là aussi, on bascule d'un monde à un autre pour avoir en fait la même terminologie. Ça, ce genre de choses, c'est assez, pour le coup, c'est assez Grand Mal. Voilà.
Eh ben merci Anne-Lise d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter Grand Mal, tentative d'explication et interprétation dans tous les cas. 26 janvier, Théâtre des Bernardines, ce jeudi prochain ici à Marseille, dans le premier arrondissement. Je suis très curieux et de plus en plus curieux de voir ce que va donner Grand Mal, performance que vous chorégraphiez avec également votre camarade Élie Ortiz. Vous habitez à Marseille, lui à Paris et tout cette rencontre en ligne et en vie. Se donne Grand Mal, c'est bien ça. Un mot peut-être, Lou?
Merci Anne-Lise pour ta présentation. Non, mais c'est vrai que dans ce travail, il y a quelque chose comme ça d'un peu foutraque quand on entend la conception de la chose, mais il y a aussi une très belle sensibilité sur, en effet, comment. Quels sont nos langages aujourd'hui, cette accumulation dont parle Anne-Lise, ce rapport à la solitude et tout en étant toujours connecté. Enfin, il y a quelque chose de très... c'est une forme qui parle d'aujourd'hui et avec une sensibilité qui est celle d'Anne-Lise et d'Élie. Et voilà, c'est vraiment un nouveau langage, mais je trouve ça vraiment magnifique. Ouais.
Merci beaucoup Anne-Lise et je conseille les auditeurs et auditrices qui seraient tout autant curieux après ce petit entretien d'aller sur votre site an-lg.com il me semble, où justement le projet La Conception de Grand Mal est extrêmement bien documenté.
Il y a à voir, oui.
C'est ça, ouais. Et il y a à voir et il y a à entendre. Retour en studio avec Lou Colombani et 14h06 sur Radio Grenouille. Retour en studio pour évoquer cette 7e édition du festival parallèle. On remercie encore Anne-Lise Le Gac de nous avoir répondu au téléphone. Quelques éléments encore pour terminer, Lou Colombani, pour terminer cet entretien. Je rappelle que énormément d'entretiens se retrouveront sur radiogrenouille.com et à l'antenne, bien évidemment, avec quasiment 90, 95 ou 99% des artistes présents sur le festival, il me semble, Lou. Ça commence. C'est ça, on va faire fort entre le 23 et le 29 janvier. Un spectacle a attiré également notre attention, celui de la chorégraphe
Michele Rizzo.
Voilà, la soirée s'intitulera Ailleurs, ça se passera au Merlan, il y aura même un after organisé dans la foulée. Est-ce qu'on peut en parler, notamment aussi de son compositeur musical, excellent.
Oui, alors Michele Rizzo, c'est un jeune chorégraphe danseur italien, mais qui vit à Amsterdam et qui, avec ce projet, explore l'univers du clubbing et ses danses comme ça et ce mouvement au clubbing des années 90 comme étant un endroit de communion aussi, c'est-à-dire à la fois d'aller-retour entre une danse très, très, très individuelle et intime, une sorte de transpersonnelle, et à la fois la création d'un tout. Et donc de la danse via son pouvoir cathartique et unificateur. Voilà, donc on a une très belle composition du fameux DJ Lorenzo Senni.
DJ producteur, ouais.
DJ producteur, voilà, qui a fait une musique magnifique. Et c'est trois danseurs qui apparaissent tour à tour, seuls, chacun dans un endroit du plateau, puis qui se réunissent dans une sorte de climax comme ça, et puis qui repartent à la solitude. Et puis une création lumière de Michele Rizzo qui est aussi très très belle. Enfin, il y a un tout là qui est vraiment très fort, un peu... Ouais, il y a une sorte de... Je sais pas, de mouvement. Je pense que dans la salle, ça sera aussi à la fois une expérience individuelle et puis quelque chose de très collectif. Voilà, donc c'est le samedi soir au Théâtre du Merlan, qui est un de nos partenaires forts aussi. Et la programmation se fait en complicité avec l'Officina et le Festival d'Ansem. Voilà. Et puis en effet, après, il y aura comme à l'accoutumée, DJ Moïse qui nous fera danser dans le hall du Merlan, puisqu'on est le samedi soir. Et cette année, exceptionnellement, donc, la programmation se prolonge le dimanche, puisqu'il y a les dimanches de la Canebière dont vous avez dû entendre parler. Il y aura beaucoup de choses dans ce quartier-là. Et nous, on avait envie de prolonger notre programmation avec sa ligne esthétique et éditoriale. Voilà, qui viendra compléter cette manifestation.
Ailleurs, de Michele Rizzo, spectacle quasiment en clôture de cette 7e édition. J'imagine qu'il va falloir se dépêcher pour toutes les places pour ce genre de spectacle.
Ouais, alors c'est vrai que bon, il y a des jauges qui sont un peu plus grandes que d'autres, mais c'est vrai que pour ce qui se passe au Théâtre des Bernardines, ce qui se passe à Montevideo, au Théâtre de l'Œuvre, on vous invite à vraiment ne pas tarder. Et puis, dans le nom de Tiffaine Raffier, qui se passe à la Criée le 25 en collaboration avec Parallèle, est quasiment complet aussi. Il ne reste plus que quelques places sur notre quota de festival, donc il ne faut vraiment pas traîner. Voilà.
Nous non plus, nous ne devons pas traîner Lou Colombani ici pour cet entretien que nous avons tous les deux. Discutons pour terminer, si vous le voulez bien, des plus et des différents ateliers, expositions et discussions qui sont proposés par le festival. Et notamment, pour commencer, on pourra se retrouver par exemple tous les jours à Montevideo, par exemple.
Oui, c'est ça. Montevideo est le lieu de convivialité de cette édition. C'est très important pour nous à plus d'un titre. Déjà, c'est important pour un festival d'avoir une base où artistes, spectateurs, partenaires peuvent se retrouver, échanger, manger un morceau après les spectacles, boire un verre, etc. C'est aussi là que sera montré l'installation vidéo Thirst de Voldemar Johansson, qui est vraiment un élément très fort de cette programmation. C'est une mer déchaînée sur un écran de 12 mètres de large par 4 mètres de haut. C'est une expérience très très sensitive, voilà, et devant laquelle on pourra venir déposer un peu ce qu'on a reçu en tant que spectateur chaque soir. Donc ça, c'est important. L'installation sera aussi ouverte les après-midi, hormis le mercredi, puisque Volmir Cordero joue le soir, donc ce jour-là, l'installation ne sera pas en marche. Et c'est aussi important parce que Montevideo, c'est un lieu important dans le paysage culturel et artistique marseillais, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le lieu a des difficultés. On ne sait pas quelles en seront l'issue, et c'est vrai que c'est aussi important d'affirmer pour nous que ce lieu est très important et qu'on puisse s'y réunir. Voilà.
Quelques dernières informations. Un atelier avec Sandra Ishe et Adeline Rosenstein, le laboratoire documentaire, mercredi 25 janvier.
Tout à fait. Donc ça se fait à l'ERAC, dans le bâtiment de l'IMMS, à la Friche Belle de Mai. Sandra Ishe est une des artistes que nous accompagnons, qui montrera aussi son prochain travail en chantier. Ça, c'est vraiment un chantier. La création sera l'année prochaine. Et Adeline Rosenstein, avec qui on échange beaucoup aussi depuis quelques années. Sandra et Adeline ont une démarche elles se suivent dans leur travail, elles sont déjà très proches artistiquement et puis humainement, et puis c'est vrai que leur projet travaillait sur le Moyen-Orient, le monde arabe jusqu'à maintenant, et puis là elles travaillent sur la politique, sur les partis politiques communistes pour Adeline Rosenstein, et sur comment se constitue notre positionnement sur l'échiquier politique pour Sandra Ishe. Donc on leur a proposé d'animer un atelier conjointement sur comment est-ce qu'on peut rendre compte du réel sur un plateau. Donc il y aura des étudiants en art du spectacle, en jeu, en mise en scène, mais aussi en sciences humaines, en droit, en histoire, etc.
Et sans doute quelques retours d'expérience à entendre sur Radio Grenouille en interview avec Sandra Ishe et Adeline Rosenstein. Merci beaucoup d'être venu ici pour parler un peu dans les grandes dynamiques, dans les grands travers de cette 7e édition du Festival Parallèle. Je le rappelle, 24-29 janvier 2017, dans pas mal d'endroits de Marseille et sur radiogrenouille.com, bien évidemment. Encore merci Lou Colombani et un grand merci à Sébastien à la réalisation. À bientôt sur Grenouille.
Ce n'est pas un poème.
Le premier jour, l'enfant.
C'est un programme, c'est l'histoire.
Un autre jour, l'enfant.
Un programme.
Il fait ses larmes. Un autre jour, il pleure. Il reprenance. Un autre jour, l'homme s'y. Comme si c'était horrible.
Maman.
Ce sera horrible plus tard. Ce sera horrible un autre jour.
Dit la mère.
Ce sera horrible un autre moment.
ce n'est pas le moment, je te mets dans le lit. Je te mets dans ton lit, dans le placard, je vais te mettre dans ton lit, dans le placard, je vais te mettre dans ton endroit.
Et le programme continue.